Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Là, on n'en peut plus, quoi. On ne peut pas vivre sans convivialité, sans partage. Il faut que ça ouvre.
Les restaurateurs se préparent à la réouverture et maintiennent la pression à la veille des nouvelles annonces d'Edouard Philippe.
Ils ont montré leur impatience en manifestant par des gestes symboliques un peu partout en France et certains sont déjà presque prêts. Reportage à suivre.
La mise au point d'Olivier Véran devant les députés, l'application Stop Covid examinée à l'Assemblée cet après-midi n'est pas liberticide, affirme le ministre de la Santé. Olivier Véran plaide aussi la liberté de chacun pour y adhérer.
On a le droit de ne pas souhaiter pour soi-même disposer d'une application comme celle-ci, mais au nom de quoi j'empêcherais tel ou tel député, telle ou telle personne de disposer de cet outil de protection.
Dans ce journal, le docteur Jimmy Mohamed répondra à cette question. Stop Covid, utile, efficace, à quelles conditions?
Le plan de relance inédit de l'Union européenne pour relancer l'économie fortement touchée par la pandémie. On parle de 750 milliards d'euros.
Et puis un gros boom dans les Alpes de Haute-Provence. 3000 mètres cubes de la roche des pénitents ont volé en éclats. Leur éboulement menaçait les maisons depuis le 2 décembre dernier. Enfin, la déception des clubs de Ligue 2 relégués après le refus de la fédération de jouer à 22 équipes l'an prochain. La Bourse de Paris, elle termine en nette hausse ce soir de 1,79% à 4688 points.
La tendance météo, c'est avec Anissa. Bonsoir.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Demain sera encore une très belle journée, chaude et sec, avec la formation de quelques petits nuages. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Sébastien Krebs et Chloé Triomphe.
Dernière semaine, dernier jour peut-être avant la fin du confinement des restaurants. En zone verte, ce sera pour le 2 juin. En zone rouge, il faudra sans doute encore attendre. Édouard Philippe s'exprimera demain.
Et ce matin, Europe 1 vous révélait quelles seraient les modalités de réouverture, les gestes sanitaires, les contraintes aussi pour les restaurateurs.
Mais certains s'y préparent déjà, alors que toute la journée, ils manifestaient un peu partout en France, comme à Perpignan, où vous êtes rendu, Benjamin Péter.
Oui, ils se sont réunis et ont symboliquement posé leur toque et leur veste à terre. Parmi eux, j'ai croisé Anthony. Lui et son épouse tiennent le comptoir de Papa Ours. Ils n'espèrent qu'une chose, pouvoir enfin rouvrir. D'ailleurs, eux n'ont pas attendu d'avoir une date ou un protocole. Ils ont tout simplement aménagé des box avec des planches et du plexiglas.
On a tout simplement en fait des petites séparations. Un petit peu comme les restaurants western, on va dire, américains, qui permet en fait d'installer les gens et de protéger chaque table entre elles, sans perdre le côté chaleureux et convivial d'un établissement de restauration, quoi. On perd une quinzaine de couverts sur 25 qui étaient prévus avec les distanciations. C'est quand même... voilà, on récupère 10. En partant sur le côté positif, on récupère 10. On a lancé ça quand on a commencé à sentir un petit peu l'impatience justement de ne pas recevoir ni protocole ni date. Un bon coup de nettoyage, finir d'accrocher les luminaires et puis c'est bon, quoi, on est prêt. Hein.
Pour la carte, ce sera à l'ardoise pour éviter les contacts. Alors en tout, ils ont investi 3000 euros pour ces mesures. Peut-être pour rien, reconnaissent-ils, si dans quelques semaines, ces contraintes devaient disparaître. Mais Anthony sait déjà qu'il faudra plus d'accompagnement, puisqu'avec 15 couverts en moins et le manque à gagner, il aura du mal à faire face, notamment pour rembourser son prêt garanti par l'État.
Benjamin Péter à Perpignan pour Europe 1.
On en vient à l'application Stop Covid, qui suscite tant de polémiques depuis l'annonce de sa conception, en particulier sur la protection des données personnelles. Elle est examinée à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Et elle sera examinée ce soir dans la foulée par les sénateurs. Alors vous le disiez, certains s'inquiètent. Ces données médicales seront-elles vraiment protégées? On avance le mot de liberticide. Écoutez la mise au point devant les députés tout à l'heure d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Ce que nous proposons, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent, ceux qui font la démarche active, d'aller télécharger une application sur leur smartphone, de pouvoir bénéficier de ce service et d'être informés avant qu'on finisse par les appeler par l'assurance maladie ou que leur médecin finisse par les appeler. On leur permet de s'équiper d'une application qu'ils peuvent utiliser s'ils le souhaitent, qu'ils peuvent désactiver à tout moment, qu'ils peuvent supprimer de leur smartphone. Au nom de quoi, j'inverse presque les choses et le paradigme, mais si on réfléchit deux minutes, au nom de quoi est-ce qu'on empêcherait cela? Ça me pensait à un titre d'un film qui s'appelait « Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres ». On a le droit de ne pas souhaiter pour soi-même disposer d'une application comme celle-ci. Mais au nom de quoi j'empêcherais tel ou tel député, telle ou telle personne de disposer de cet outil de protection?
Les propos d'Olivier Véran devant l'Assemblée nationale, recueillis par Claudia Bertram pour Europe 1.
Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Alors cette application Stop Covid, si elle est votée ce soir, sera disponible dès le week-end prochain. Donc on l'a entendu, sur la base du volontariat. Vous en pensez quoi? Ça peut être efficace?
Alors, initialement, on pensait que le traçage, le tracking ne passerait que par une application numérique. On pensait que sans cette application, il serait impossible de dépister les cas autour des gens malades. Eh bien, finalement, les choses sont un peu différentes. On se rend compte que l'épidémie est contrôlée, on arrive à tester les gens, que les brigades de l'assurance maladie fonctionnent plutôt pas mal et donc on n'a pas forcément besoin de cet outil numérique. Néanmoins, je pense que c'est un moyen supplémentaire pour informer les gens sur la base du volontariat. Et si jamais vous avez rencontré quelqu'un qui avait le virus et que vous étiez en contact suffisamment rapproché et prolongé pour vous faire tester, recevoir un appel de l'assurance maladie qui vous invitera à vous protéger et par conséquent vous protéger les autres est peut-être intéressant. Donc pas de fantasme, mais pas non plus d'espoir surréaliste, surtout que dans la littérature, aucune preuve d'une efficacité majeure de ce dispositif.
Et eh ben on verra du coup si c'est efficace. Merci docteur Jimmy et Mohamed. Vous restez avec nous, vous retrouverez évidemment tout à l'heure à 19h30, vous serez avec nous jusqu'à 20h pour parler de la santé des Français et cette application Stop Covid. On y revient à 18h30 avec les grandes voix puisque le service économie d'Europe 1 a pu la tester, cette application. Emmanuel Dutheil sera là pour nous dire un peu comment ça fonctionne. L'économie à présent et l'économie qui sera durablement touchée par la pandémie. Tous les pays mettent désormais la main au portefeuille et au plan européen, un fonds de soutien exceptionnel va voir le jour.
Il a été présenté tout à l'heure pour un montant de 750 milliards d'euros. Autant dire un plan inédit, Pauline Jacquot.
Oui, inédit par son ampleur d'abord et puis par sa forme. C'est la première fois que la Commission européenne va emprunter comme ça directement sur les marchés. Ça veut dire qu'elle va émettre de la dette commune, 500 milliards d'euros de subventions directes aux États et puis 250 milliards de prêts, des sommes versées aux pays les plus touchés par la crise, l'Italie, l'Espagne bien sûr, à eux deux ils totalisent plus de 40% du montant total et puis la France, 39 milliards d'euros, nous sommes le quatrième pays bénéficiaire de ce plan.
Et concrètement Pauline, à quoi va servir cet argent?
Eh bien en France par exemple, Bruno Le Maire l'a déjà dit, cela va pouvoir financer la rénovation de l'hôpital, le plan de relance aéronautique, automobile ou encore celui du tourisme. Mais attention, cette proposition de la Commission européenne n'est que la première étape. Il va encore falloir négocier et notamment convaincre les quatre frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède, ces pays qui veulent un soutien uniquement sous forme de prêt.
Les explications de Pauline Jacquot pour Europe 1. Et puis un chiffre qui frappe les esprits parmi les plus touchés par cette crise, les jeunes. Selon l'Organisation internationale du travail, un jeune sur six se retrouve sans emploi.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Chloé Triomphe et Sébastien Krebs.
Et à suivre dans votre journal de 18h, la condamnation en appel des anciens seigneurs de Levallois, les Balkany, mis à terre par la justice.
Europe 1.
18h09 sur Europe 1, la suite du journal avec Chloé Triomphe et Sébastien Krebs.
5 ans pour Patrick Balkany et 4 ans de prison pour son épouse Isabelle. Tous les deux condamnés en appel aujourd'hui pour blanchiment de fraude fiscale.
Pas d'incarcération immédiate pour des raisons de santé. Patrick Balkany, visiblement affaibli, a assisté au délibéré sans un mot, Salomé Legrand, alors que les juges ont été beaucoup plus sévères sur le fond.
Oui, les magistrats l'ont jugé coupable de tout, y compris de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des tours de Levallois pour laquelle Patrick Balkany avait été relaxé en première instance. La cour épingle les montages financiers complexes élaborés par les Balkany qui ont, je cite, persisté dans le mensonge, y compris à l'audience. 5 ans de prison, 10 ans d'inéligibilité et confiscation de l'essentiel de leurs biens immobiliers arrivaient déjà sonnés au tribunal, regardant le vague derrière ses lunettes de fumée. Patrick Balkany sort sans un commentaire. C'est l'avocat de sa femme, maître Pierre-Olivier Sûr, qui s'exprime.
Cette disproportion appelle à se poser la question de savoir si c'est une justice d'un nouveau monde qui juge une politique d'un ancien monde et qui a voulu faire un exemple et tuer une carrière politique. Financièrement, Patrick Balkany a perdu 30 kilos. Isabelle Balkany était en coma artificiel pour ces derniers temps. Jamais dans une affaire de pénal financier, on a été aussi près de la mort. La question est de savoir si tout cela n'est pas complètement disproportionné.
Et les Balkany ont 5 jours pour se pourvoir en cassation.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et puis l'enquête aura pris quelques mois. Souvenez-vous du camion charnier retrouvé en octobre dernier près de Londres avec 39 migrants décédés. Eh bien, Belges et Français ont arrêté 26 personnes aujourd'hui. On en parle dans le journal de 19h.
Et puis c'était le 2 décembre dernier dans le village d'Aimé, dans les Alpes de Haute-Provence. Un énorme pan du rocher de la chaîne montagneuse qu'on appelle les pénitents s'était écrasé sur des maisons, miraculeusement sans faire de victimes. victimes.
3000 mètres cubes de roches qui menaçaient toujours les habitations et qui ont été soufflées par une explosion cet après-midi. Explosion volontaire bien sûr, reportage Nathalie Chevance.
Les sirènes ont retenti, 250 habitants évacués de la zone à risque, tout un village qui se fige et soudain, l'explosion. Un énorme nuage de poussière s'élève, quelques applaudissements et des larmes dans les yeux de Sarah, émue de voir désormais sa montagne amputée d'un pénitent.
De voir ça, j'y crois pas. Enfin, j'arrive pas encore à réaliser. Beaucoup de peine.
C'est une partie du village qui part ?
Oui, la beauté, le charme, le tout.
Les hélicoptères tournent pour une première évaluation. 2300 tonnes de roches pulvérisées par 300 kilos d'explosifs et plus de menaces au village, se félicite le maire Gérard Paul.
C'est effectivement un grand soulagement pour la commune. Visiblement, la purge s'est très bien passée. Il y avait toujours cette menace à cause de cette faille. Et donc, il fallait vraiment purger pour que le site soit définitivement sécurisé.
Et pour les familles évacuées dont les maisons avaient été en partie détruites cet hiver, c'est un premier pas vers la reconstruction.
C'est une grosse étape pour nous. Ouais. On se languit de partir, quoi, de retourner chez nous. Il y aura des gros travaux à faire. Je pense que d'ici une petite année, nous pourrons retourner chez nous. Ouais. Toute la cuisine est entièrement détruite, le plafond, les murs, il y a tout qu'à bouger. Quoi. Mais ça va avancer, on est confiants.
3 mois de déblaiement seront nécessaires, avec désormais une cicatrice sur la chaîne des pénitents. L'aimé Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis la déception des clubs de foot professionnels après le refus de la fédération de jouer la Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine.
Demande faite au nom de la saison écourtée à cause du Covid-19 qui n'a pas permis à certains clubs de se battre jusqu'au bout pour éviter la relégation. Le Mans et Orléans en font les frais, ce qui provoque la déception du président de l'US Orléans, Philippe Boutron, au micro de Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Beaucoup de déception. On peut se poser la question de savoir à quoi sert la Ligue de foot professionnelle, puisque les décisions prises par cette instance sont remises en cause, probablement pour des velléités de populisme électoral au sein de la Fédé, mais je suis surpris qu'un chef d'entreprise de sa dimension n'intègre pas les conséquences économiques, c'est très étonnant. Il faut savoir qu'une rétrogradation chez nous, ça va être la suppression de entre 15 et 20 emplois. Hein. Nous, notre budget va passer de 10 millions à 5 millions, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous baissez votre budget de moitié. Les gens vont perdre leur emploi parce qu'on a décidé de vouloir préserver je sais pas quoi.
Philippe Boutron, président de l'US Orléans, au micro de Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
C'était le journal de Chloé Triomphe. On vous retrouve, Chloé, à 18h30 pour le rappel des titres. À tout à l'heure. Anissa, vous nous remettrez une petite journée d'été pour demain ?
Ah bah, si vous le demandez aussi gentiment, je le fais, Sébastien. Effectivement, demain sera quasiment la même journée qu'aujourd'hui. Avec tout de même, demain matin, sur le littoral méditerranéen, sur les Alpes du Sud et les Pyrénées, quelques nuages bas en début de journée. Sur les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace, les nuages seront un petit peu plus présents demain après-midi. Partout ailleurs, le soleil brille dans un ciel complètement dégagé. Sur les reliefs, comme aujourd'hui dans l'après-midi, sur les reliefs pyrénéens et alpins, nous aurons quelques cumulus qui se forment et qui pourront lâcher quelques gouttes. Sur les côtes de la Manche, c'est le vent qui souffle, le vent de nord-est. Il souffle jusqu'à 50 km/h. Les températures, 8 à 10 degrés à l'est demain matin, 10 à 15 sur l'ensemble de la France, c'est très doux, jusqu'à 17 au bord de l'Atlantique. Et dans l'après-midi, alors c'est plus frais sur les côtes de la Manche avec le vent qui souffle, forcément 18 à Cherbourg, 22 au Havre. C'est doux sur l'ensemble du pays, 23 à Lille, 24 à Strasbourg, 25 à Clermont-Ferrand, 26 à Paris, 28 à La Rochelle. Et c'est chaud dans le sud-ouest avec 31 degrés à Brive, Bordeaux et 32 pour Cahors.